100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean-Sara Méa, historien, raconte les années anniversaires de 2025. Et bonsoir Jean-Sara Méa, on vous retrouve pour votre dernière chronique anniversaire 30 ans en arrière en 1995.
Le bel âge
pour beaucoup. Bon anniversaire.
Alors, que se passe-t-il en Europe au niveau international ?
Alors, en Europe, c'est qui dure pendant plusieurs années, cette guerre terrible en Yougoslavie, parce que depuis 1945, on n'avait pas eu de conflit extrêmement durable et sanglant en Europe même et près de la frontière italienne, en définitive. Donc c'est assez marquant avec intervention de l'OTAN. La Russie soutient plutôt les pays orthodoxes, donc la Serbie. Musulmans, en particulier d'Arabie Saoudite et de Turquie, soutiennent la Bosnie, qui est musulmane en majorité. C'est très délicat, cette affaire de l'ex-Yougoslavie, et ça dure jusqu'en 98-99. Autrement, en Europe, les futurs adhérents à la monnaie unique décide que la monnaie s'appellera l'euro. On ne l'avait pas encore décidé jusque-là. On avait pensé à l'écu pendant un certain temps, puis bon, ce n'était pas très poétique, même si c'était célèbre au niveau historique, mais c'était franco-français. Voilà. C'est cette année-là que l'Union européenne passe de 12 à 15, avec l'adhésion de la Finlande, de la Suède et de l'Autriche. C'est très original parce que ce sont des pays neutres. Jusque-là, c'était des pays qui adhéraient à l'OTAN, c'était des pays inévitablement à l'ouest et plus ou moins contrôlés par l'armée américaine. Là, non, ce sont trois pays neutres qui entrent, qui n'abandonnent pas d'ailleurs, ou partiellement, leur neutralité. Alors, élargissons au niveau international. Mais là aussi, ça dure pendant 7-8 ans, la terrible guerre civile en Algérie, qui fera, on ne sait pas très bien, mais entre 200 et 300 000 morts, sur quasiment une décennie. Des graves tensions, déjà, entre l'Ukraine et la Russie, à propos de la Crimée. Et cette année-là, 95, c'est ce terrible carnage au Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis, qui va être largement connu dans le monde. Cette année-là, on l'a bien oublié, mais le Québec avait exigé un référendum pour proclamer son indépendance. Ça a été très très juste. Les Québécois ont dit non, donc ils sont toujours un État du Canada, à 50,6%. Ça a été extrêmement juste. Sinon, la belle province prenait son indépendance avec sa langue française. Je suis allé donner des conférences au Canada en septembre 2017. Quand vous êtes dans la capitale Ottawa, bon, c'est bilingue, mais c'est quand même la zone anglophone, vous passez l'énorme rivière qui a le débit du Rhône, mais qui est là, au pied du Parlement d'Ottawa, vous entrez à Gatineau, qui est la première ville québécoise, et brusquement, vous n'avez plus de panneaux stop. Vous avez les panneaux arrêt, parce que stop, c'est de l'anglais. Voilà.
Presque plus français que nous.
Exactement. Et puis, dans les programmes de géographie, je m'en souviens, surtout en terminale, on fait l'éloge des quatre dragons. Bon, on n'en parle plus 30 ans après, mais ce sont trois pays asiatiques pas très étendus, c'est la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong, qui ont un taux de croissance extrêmement rapide, qui sont en train de rejoindre le niveau de vie des pays bien développés et qui ont un succès commercial et des entreprises planétaires, notamment la Corée du Sud avec les Chaebol, qui font que cela étonne les économistes. Et je me souviens, on devait faire en terminale pour le bac les quatre dragons. Voilà.
Et en France, justement, que se passe-t-il en 1985?
c'est la découverte de la grotte Chauvet. Splendide. Tout près de Vallon-Pont-d'Arc, en Ardèche. Bon, maintenant, on visite une reproduction, bien sûr, pour garder intact. D'autant plus que c'est beaucoup plus ancien que d'autres grottes ornées en Europe. Cette année-là, au niveau culturel ou historique, Pierre et Marie Curie sont transférés au Panthéon par François Mitterrand. Ce sont les élections présidentielles. Le deuxième tour sera entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Jacques Chirac l'emporte avec 52%, un petit peu plus, des voix. Cette année-là, le nouveau président de la République, donc Jacques Chirac, fait un discours remarqué, toujours cité en histoire et très courageux, lors de l'anniversaire de la rafle du Veldiv. Et c'est la première fois qu'un chef de l'État, les précédents s'y étaient toujours refusés, donne la responsabilité de l'État français, même si on évite encore de citer le maréchal Pétain, mais la responsabilité de l'État français, puisque la rafle du Veldiv à Paris, juillet 1942, c'est sur ordre de ce qu'on appelle le gouvernement de Vichy, même si la commune de Vichy n'y est pour rien, et c'est la police française. En zone occupée, certes, mais c'est la police française. Cette année-là, Jeanne Calment atteint 120 ans. Elle va vivre encore 2 ans, et ce sera le record mondial, qui est tout à fait attesté sur le plan médical, parce qu'il y a eu quelques émissions, radio surtout, il y a eu même des médecins russes disant que c'était pas... Non, c'est médicalement attesté, elle a bien atteint 122 ans, et elle a enterré son notaire qui lui versait chaque année, au titre du viager, une somme, voilà. Bon... Cette année-là, c'est l'inauguration du pont de Normandie, qui est un magnifique ouvrage. Et la France atteint 58 millions d'habitants, donc 10 de moins qu'officiellement à l'heure actuelle.
Qu'en est-il de la culture ?
Eh bien, on fête largement en France les 100 ans du cinéma, mis au point par les frères Lumière, donc... autour de Lyon, mais pas seulement, 100 ans plus tôt. Et c'est l'inauguration de la grande Bibliothèque nationale de France, près de Paris, qui s'appelle maintenant la Bibliothèque François Mitterrand, puisque c'est ce président qui l'avait, disons, impulsé.
Comment se porte le milieu, le secteur du sport ?
Eh bien, je vais parler de quelque chose qui est bien oublié, mais qui me touche. Guy Delage, qui est né en 1952, qui a donc un an de plus que moi, traverse l'Atlantique à la nage, des îles du Cap-Vert jusqu'à la Barbade. Bon, la nuit, il se repose dans un esquif flottant, mais tout le reste du temps, c'est bien traverser l'Atlantique à la nage. C'est absolument unique. Et j'ai bien connu Guy Delage, parce que ses parents étaient instituteurs, les miens aussi, juste à côté de Château-Thierry. Et jusque vers l'âge de 8-10 ans, il était déjà bon nageur. Hein, on se rencontrait sur les bords de la Méditerranée l'été. Mais j'ai perdu contact, mais j'ai bien connu Guy Delage. Voilà. Et quelques années avant, il avait traversé l'Atlantique Sud en ULM et il avait failli y rester. Voilà. Autrement, eh bien, Miguel Indurain gagne son 5e Tour de France. David Douillet devient champion du monde de judo. Et Michael Schumacher devient champion du monde de Formule 1.
Et alors, qu'en est-il des décès ?
Alors, là aussi, faisons un choix. Francis Lopez, un peu oublié de nos jours, mais grand compositeur d'opérette. C'est aussi l'écrivaine américaine ô combien mondialement connue Patricia Highsmith. Paul-Émile Victor, notre grand explorateur, en particulier des zones polaires, mais pas seulement. C'est le philosophe roumain et en définitive européen, Cioran. C'est l'écrivain français qui avait été très lu dans les années 80, Père Jacques Elias, écrivain breton. Je me rappelle Le Cheval d'Orgueil, qui avait été extrêmement un grand succès littéraire. C'est l'auteur de bande dessinée italien, Hugo Pratt. C'est le cinéaste français Louis Malle. C'est l'homme de radio et de télévision, ô combien connu, Léon Zitrone. Ce sont les comédiens français Robert Manuel et Henri Virlogeux. Et le philosophe Emmanuel Levinas. Voilà, quelques souvenirs, mais vous pouvez chercher et en trouver d'autres.
Bien sûr. Et alors, quelles sont les chansons qui ont marqué ?
Citons-en quelques-unes. Difficile de faire un choix, parce que les modes ont changé. Et les chansons qui étaient relativement très connues à l'époque ne le sont plus. C'est « Zen » de Zazie. C'est « Je sais pas » de Céline Dion, dont on parle de plus en plus à l'époque. C'est « Passer ma route » de Maxime Le Forestier. Mais j'ai choisi une chanson très peu connue de Michel Fugain. Cette chanson s'appelle « Les ronciers ». On va dire « Oh, c'est peu poétique, qu'est-ce qu'il va chercher ?» C'est tout simplement qu'il met en chanson des souvenirs d'enfance avec de l'harmonica, un petit peu des amours de jeunesse sur les bords de l'Isère. Donc, c'est dans le Dauphiné. Les ronciers de Michel Fugain.
Merci Jean-Sarah Méa pour cette dernière chronique anniversaire, mais on vous retrouve quand même la semaine prochaine pour une chronique...
Oui, historique aussi. Historique. Les 80 ans de quelque chose de très important.
Ce sera à découvrir la semaine prochaine.
Merci. À très bientôt.
Sur les ronciers, au bord de l'Isère, on cueillait des mûres et des baisers, encore un peu verts. On regardait les filles riaient, souriaient sous leurs jupes jonquilles. Les fruits de l'été s'éveillaient, on cueillait les mûres sur les ronciers, au bord de l'Isère. Et si les ronds sous l'amour piquaient, la belle affaire, c'était l'âge où l'on remplissait nos premiers cendriers. Sans se plier, histoire de se distinguer. C'était l'âge où l'on se saoulait de toutes les idées. On cueillait des mûres sur les ronciers après le ciné. Ces vieux films en noir et blanc, mais faits comme on les aimait. On parlait pour les filles écoutaient à côté. Il fallait que l'on brille pour les approcher de plus près. Le monde qu'on voulait, le sourire aux lèvres pour mieux cacher
changé. C'était l'âge où l'on attendait l'avenir qui venait. On cueillait les mûres sur les ronciers au bord de l'Isère. Et si les ronces ou la vie piquaient, la belle affaire.